que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est grave?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si important que c'est normal.
Chut.
Et bah, viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 21 juillet, il est 18h et vous écoutez On Papote, le bimensuel présenté par votre animatrice préférée Anaëlle. Aujourd'hui, il s'agit de la toute dernière émission de la saison. Et oui, nous partons également en vacances, mais nous vous avons réservé de nombreuses surprises pour la rentrée. Même si nous partons en vacances, je vous rappelle que l'émission est présente sur les plateformes d'écoute pour tous ceux qui souhaitent écouter les précédents épisodes. N'hésitez pas à soutenir l'émission en notant l'émission sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Trêve de blabla et lançons l'émission. Ce soir, je suis au studio avec Bérénice, la créatrice et l'animatrice du podcast Le Canap de B, avec qui je vais parler création de contenu et pression. Afin de débuter ce 15e et dernier épisode, je vais te demander de te présenter et de nous parler un peu de ce que tu fais avec ton podcast.
Bah écoute, merci de me recevoir. Alors donc je m'appelle Bérénice, j'ai 34 ans et donc le Canap de Bi, c'est un podcast qui interroge une personnalité sur le film ou la série qui a eu un impact dans sa vie. On voit son parcours, son histoire et en même temps ça permet aux auditeurs et auditrices d'avoir un effet un peu cathartique sur les émotions et le parcours de l'invité.
On va passer à la première partie qui est le travail d'un créateur de contenu. Donc la première question est, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer ?
En fait, c'était pendant la période du confinement où j'écoutais énormément de podcasts et j'étais assez friande des notes vocales. J'aimais beaucoup ça. Et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais nous conseiller des films ou des séries? Voilà, en ce moment, je traverse telle ou telle émotion. Et c'est comme ça que l'idée est venue pour le podcast.
Parce que du coup, t'es passionnée de cinéma.
Exactement, de cinéma et de psychologie.
Est-ce que ce choix a eu un impact sur ta vie au quotidien ?
Oui, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui s'improvise, contrairement à ce qu'on peut croire et dans l'ère un peu du tout numérique et de l'immédiateté, et que ça demandait énormément de travail. Même si, par exemple, pour mon podcast, parfois je peux avoir un podcast qui va durer 20 minutes ou des publications sur les réseaux sociaux. Mais derrière, je pense que je ne me rendais pas autant compte que ça nécessitait beaucoup de travail derrière.
Et comment tu trouves à peu près tes idées ? Que ce soit pour les podcasts, que ce soit pour la création de contenu, etc.
Alors, pour les podcasts, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait en fait une formation auparavant. Et du coup, il m'avait été conseillé de d'abord faire dans mon entourage, donc notamment pour trouver mes invités. Et puis, en fait, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, parce que j'aime beaucoup aussi voyager. Donc, j'ai fait en sorte de corréler à la fois les voyages, la psychologie et le cinéma. Et donc, du coup, ça s'est fait au fil de mes rencontres. En tout cas, en ce moment, ça se fait comme ça. Et puis, je dirais que maintenant que je me sens un petit peu plus à l'aise et installée dans mon projet, eh ben, je passe par des DM sur les réseaux sociaux pour contacter mes futurs invités.
D'accord. Parce que ça fait combien de temps à peu près que tu fais ça ?
En septembre, ça va faire un an.
Ouais. À quoi ressemble une journée typique ?
Alors, une journée typique, le matin, je consulte mes mails. Ensuite, sachant que la veille, je me suis déjà fixé un petit objectif de la journée entre mes différents degrés d'urgence, etc. Soit je vais travailler sur la partie créative. Et dans ces cas-là, je vais faire par exemple de la recherche documentaire, du fact-checking sur le film ou sur l'invité. Et puis ensuite, en deuxième partie de journée, c'est plutôt la partie purement créative et sur les réseaux sociaux et comment je peux promouvoir justement mon podcast. Donc il y a vraiment deux parties. Il y a la partie technique et la partie créative.
D'accord. Mais du coup, les deux, l'un ne va pas sans l'autre.
Oui, les deux ont un sens.
Ouais.
Je pense que les deux s'alimentent en fait. Parfois, je trouve des idées dans le côté technique qui vont me donner des idées dans le côté créatif et vice-versa en fait.
Ok, d'accord. Mais du coup, tu peux pas passer par exemple une journée entière sur la créativité ou passer une journée entière sur le côté technique. t'es obligée de mettre un peu des deux parce que...
Pas forcément. Non. Alors, ça dépend aussi de mon humeur. J'essaye, je me suis rendu compte que dans la création de contenu, en tout cas, c'était ce qui compte beaucoup, hein, notamment pour les algorithmes, que ce soit bien dans les podcasts ou sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. C'était aussi la régularité. Mm-hmm. Et j'essaye justement de ne pas être... c'est assez difficile, mais j'essaye de ne pas être, entre guillemets, esclave de tout ça et de me concentrer vraiment sur l'aspect créatif. Mais malgré tout, il faut répondre à tout ça et faire la promotion. Donc non, il y a des journées où je suis beaucoup plus d'humeur créative, notamment pour les réseaux sociaux, ou créer des affiches, des choses comme ça, et je vais moins passer sur la technique.
Ouais. Parce que du coup, tu vis un peu du podcast ou pas encore ?
Pas encore.
Pas encore,
non. Non.
Mais du coup, t'aimerais bien ou...
Ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. J'ai commencé ça comme un loisir et au final, j'ai vu que je gagnais en compétences et que ça pouvait être... c'est un métier, hein, mine de rien. Alors, c'est difficile, je pense, surtout quand on n'est pas soutenu par un grand média ou un studio de production, d'en vivre directement. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un bon bagage professionnel.
Et parce que du coup, tu fais tout toute seule.
Oui, tout toute seule. Et quand j'en discutais avec des amis, justement, je me suis rendu compte que c'est comme si je faisais le travail de trois personnes, à la fois du journaliste, donc qui va se renseigner et qui va interviewer, de l'ingénieur du son, du coup pour le mixage, et puis du community manager pour les réseaux sociaux. Donc mine de rien,
c'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail, ouais.
D'accord. On va passer à la question transition, qui est pour moi assez importante. Alors la question c'est, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu vis pour ta passion ou est-ce que c'est ta passion qui te fait vivre ? C'est une bonne question.
Ouais,
hein.
C'est une super bonne question parce que je suis quelqu'un de très passionné justement. Et je pense que c'est ce qu'on dit souvent enfin en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit dans le domaine du podcast, c'est que c'est très facile de commencer, surtout avec l'ère du numérique, etc. Tout le monde peut en tout cas avoir accès à un micro ou même avec son téléphone, on peut commencer et puis diffuser. Mais par contre, être dans la durée, c'est beaucoup plus difficile. Et donc du coup, pour répondre à ta question, je pense que je suis guidée par ma passion. Par ma passion des interviews, des récits de vie et du cinéma. Donc c'est clairement ma passion, ouais.
Oui, donc en fait, tu sens pas que c'est du travail dès l'instant où tu dois le faire ?
Non, pas du tout. Au contraire, je pense que j'ai peut-être minimisé ça. Justement, j'en discutais avec certains de mes amis et pour moi, au début, c'était un petit peu difficile parce que je commençais et que je l'ai fait en autodidacte. Mais c'est tellement une passion que c'est rentré dans mon processus créatif est rentré dans mon quotidien. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment une passion, quoi.
Donc ça veut dire qu'en fait, peu importe l'endroit où tu vas être, peu importe le moment, tu vas quand même y penser et tu vas quand même travailler inconsciemment.
Tous les jours, j'y pense. J'y pensais pas, j'y croyais pas quand on me l'avait dit, mais j'y pense. Tous les jours, vraiment tous les jours. Et c'est pas de façon...
péjorative.
Ouais, péjorative, mais j'y pense tous les jours parce que ça m'anime en fait, vraiment. Et là, il y a deux jours, j'étais à un concert et j'ai rencontré des personnes. Ben, tout de suite, j'en ai profité pour en parler parce que j'adore ça. Et ouais, j'y pense tous les jours en fait, vraiment. Parfois, ça peut être dans des petites subtilités, mais c'est pour ça que j'ai toujours un carnet avec moi. J'aime bien écrire. Et du coup, ouais, j'y pense très souvent.
Ouais. Parce que du coup, moi, c'est un peu la même chose. Je rebondis un peu sur ce que tu dis.
Ouais.
J'ai un peu l'impression que, au final, oui, je vis un peu pour le podcast.
Oui.
Mais que ça peut prendre le dessus, par contre, à certains moments. Ouais. Ça, je pense, on pourra l'évoquer dans la deuxième partie.
Oui.
Mais il faut vraiment... faut pas tomber, en fait, dans ce truc de... le podcast vit pour nous et inversement. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
Si, complètement. Je sais qu'à un moment donné, j'étais assez... J'étais tellement focalisée dessus que j'arrivais plus trop à prendre du recul et à prendre du plaisir. Et que justement, je me dis que ça doit être, à la base, c'était un loisir qui peut-être se professionnalise, ou en tout cas qui tend à se professionnaliser pour moi. Et du coup, j'ai aussi envie de mettre une certaine distance. Et je pense que ça fait, je sais pas comment c'est pour toi, mais parce que voilà, on a un rythme. Par exemple, donc pour ton podcast, c'est bimensuel, si je ne me trompe pas. Moi, c'est une fois par mois. Justement, je me suis dit qu'une fois par mois, pour éprouver du plaisir et continuer, je ne voulais pas en faire plus, en fait. Ça, c'était important pour moi.
Ouais, parce que du coup, moi, au contraire, c'était l'inverse.
Ouais.
Le bimensuel était plus léger. On partait au début avec un hebdomadaire.
Ok.
Mais quand on se rend compte, en fait, de la charge de travail qu'il y a au quotidien, mais encore une fois, ça, on l'évoquera dans la deuxième partie, c'est pas la même chose.
Ouais.
Un mensuel est, je pense, plus léger à travailler qu'un bimensuel.
Alors oui, j'ai envie de te répondre oui et non. Parce que je pense, hein, avec le recul, c'est que peut-être que ça dépend aussi du format de ce que tu proposes. Je le vois en tout cas autour de moi où il y a des personnes, par exemple, elles font des podcasts où elles parlent toutes seules.
Ouais.
Donc c'est déjà en termes de recherche, c'est complètement différent
de mise en place.
Voilà, de mise en place. Quand t'as un invité, t'as toute la logistique. Est-ce que tu le fais sur place, pas sur place, trouver les dates, les arrangements, les annulations. Donc mine de rien, c'est des petites choses qu'on perçoit pas forcément, et quand on voit juste le résultat, on l'apprécie. Mais c'est vrai que je pense que tu le sais, mais quand on est derrière, il y a tous ces petits trucs là et ça en rajoute, mine de rien, en fait.
Ouais, exactement. On va passer à la deuxième partie, qui est vivre pour sa passion ou vivre par sa passion. Donc comme on l'a évoqué, la question est: est-ce que tu arrives à garder une certaine distance dans le perso et dans le pro?
Oui, quand même. Mm-hmm. Oui. Je dirais que oui. Pour le podcast, au début, c'était pas si simple que ça. Parce que j'ai commencé en étant... j'ai fait mon premier épisode donc, en France, et après je suis partie aux États-Unis. Donc c'était pour un voyage à la fois professionnel et en même temps personnel. Et c'est vrai que j'y pensais tellement tout le temps que je me suis dit... j'ai pas réussi à percevoir dans un premier temps que ça devenait un peu trop, ça empiétait un peu trop dans ma vie privée. Et maintenant, justement, je me fais des plannings. Et par exemple, je me suis dit que le week-end, je ne m'occupe pas de mon podcast. Je ne travaille pas sur mon podcast et je m'acharne, j'essaye de ne pas aller sur les réseaux sociaux en rapport avec mon podcast le week-end. Ça, c'est vraiment, et c'est un conseil que j'ai reçu d'ailleurs d'une créatrice de podcast qui m'a clairement dit: si tu veux éprouver du plaisir, c'est comme pour tout, il faut que tu équilibres les choses.
Ouais, okay.
C'est vraiment important, ouais.
D'accord. Parce que du coup, sinon, ça empiétait un peu sur les deux.
Ah oui, bah oui, ça empiétait sur les deux et j'arrivais plus à faire la différence. Comme c'était une passion, je me suis dit, comme je suis passionnée, je peux y consacrer énormément de temps. Sauf que je me suis beaucoup inspirée, par exemple, des réalisateurs, des actrices, etc. Comment eux, par exemple, ils préparaient leur rôle ou des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup inspirée et je me suis dit, c'est pas parce que t'es passionnée que tu dois y passer toute ta vie.
Ouais.
Voilà.
Ok. On pense beaucoup que les réseaux sociaux sont faciles à gérer quand on est créateur. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
C'est une vaste question. Je dirais que déjà, ça dépend de base quel est ton rapport aux réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai choisi de faire une page personnelle pour mon podcast et de garder ma page perso. Déjà, dissocier les deux. Ça me permet, le fait de dissocier les deux dans le virtuel, peut-être qu'indirectement, ça me permet déjà dans le réel de prendre une certaine distance. Après, avec l'ère des réseaux sociaux, où on a envie que tout aille vite, on veut avoir une audience, on veut avoir tout de suite, je pense qu'on peut aussi un peu s'y perdre. Mais je pense que si t'es bien entouré, et c'est surtout si tu connais bien tes objectifs, ça peut aller.
Ouais. Mais du coup, est-ce que... Parce que là, on parle des réseaux sociaux, mais on a évoqué un peu dans le côté perso.
Mm-hmm.
Est-ce que tu as une pièce réservée pour le travail ? Enfin, ou un espace ? Parce que je sais qu'on évoque beaucoup ça quand on parle... Donc, comme c'est le cas, par exemple... Je prends l'exemple de Léna Situation,
mm-hmm.
qui, elle, a une pièce de travail.
Oui.
Où, en fait, dans la maison, tu as cette zone-là qui est faite pour le travail. Et le reste du temps, c'est en fait du perso.
Oui.
Pour pas que tu ramènes le perso, par exemple, dans le lit ou dans la chambre,
mm-hmm.
pour éviter de mélanger un peu le truc. Et c'est souvent ce que font les créateurs en général. Donc, je veux savoir, est-ce que toi aussi, t'as un peu ce truc-là ? Ou est-ce qu'au contraire, tu travailles un peu partout et il n'y a pas forcément de différence, mais la différence, elle est seulement sur les réseaux sociaux ?
Alors, il y a plusieurs réponses, je pense, à ce que tu dis. Déjà, j'habite à Paris, donc pas dans un très grand espace. donc je le fais essentiellement dans mon studio. En tout cas, okay. J'enregistre chez moi. Comme le nom de mon podcast l'indique, le canapé. Donc c'est, je le fais souvent sur mon canapé. Ce que je fais, c'est au niveau des plages horaires. En fait, c'est comme ça que j'arrive à dissocier la chose. C'est que je me fixe des jours, par exemple des jours d'enregistrement ou des jours off. tout simplement par rapport au podcast, et ça me permet juste de prendre une pause et de voir aussi que bah, c'est un travail en fait, ouais. Même si je suis pas rémunérée pour le moment, c'est un vrai travail. Donc je pense que c'est plus ça, et c'est qu'il y a des moments aussi où je me suis dit je veux pas en parler, ou en tout cas par exemple vu que c'est en lien avec le cinéma, il y a un moment donné je regardais que des films par rapport à mes futurs invités, mmh. Et je me suis dit ouais, mais en fait ça n'alimente plus mon processus créatif, et ce qui moi aussi me fait du bien, c'est de juste regarder des choses par plaisir et pas juste pour le travail. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est plutôt en termes de plage horaire que j'arrive à scinder comme ça. Et puis après, la particularité, c'est que je peux enregistrer partout. Généralement, bah, par exemple, chez mes parents, j'enregistre sur mon bureau. En tout cas, j'arrive quand même à psychologiquement, j'arrive à dissocier le perso du pro à ce niveau-là quand même. C'est ouais. pas simple, mais en tout cas, je respecte pour les grands youtubeurs ou les créateurs de contenu, parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, c'est complexe quand même.
Donc, tu as ton planning.
Ouais.
Et le week-end, tu travailles pas.
Ouais.
Mais du coup, est-ce que ça prend en compte aussi le moment où tu vas voir les invités? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, si ton invité il est disponible que le week-end, du coup, tu dis non, à ce moment-là, je travaille pas?
Non. Là, j'avoue que justement, récemment, j'ai eu des invités, enfin là, j'en aurai encore, qui sont notamment dans les Outre-mer. Mmh. Et là, bah, par rapport au décalage horaire, par rapport aux contraintes aussi de chacun, si je veux vraiment avoir cet invité, bah là, non. Je trouve une solution et je me dis, ok, bah, ce week-end, je vais un peu plus y travailler. Mais par contre, la semaine prochaine, je m'accorderai un peu plus de temps pour moi, pour équilibrer justement. Parce qu'au tout début, c'est vrai que j'étais un peu dans cet empressement à vouloir plein d'invités, plein de contenus, être un peu partout, faire tout. Et en fait, j'ai vu que c'était juste pas possible.
Ouais. Mais du coup, comment tu fais un peu comment t'as fait pour un peu calmer la chose? Parce que du coup, on peut pas passer d'un extrême à un autre.
Non. J'ai pris une pause par rapport à mon podcast. J'en ai pas mal discuté avec mon entourage qui me soutient beaucoup. Et puis, je me suis dit qu'il y avait rien qui pressait. Que j'avais envie de bien faire les choses et que j'étais pas dans la quantité mais plutôt dans la qualité. C'est, en tout cas, c'était ma stratégie. Et du coup, par exemple, là, j'ai arrêté de faire des appels à témoignages pour mes invités. Je sais qu'il y en a qui sont très bien. Et du coup, je me suis dit, les choses, elles vont venir petit à petit. Et que j'ai besoin de prendre une pause pour pouvoir justement mieux alimenter mon processus créatif. Et donc du coup là par exemple j'ai arrêté de faire des appels à témoignages pour les invités, parce qu'au début je le faisais massivement par peur justement de ne pas respecter l'algorithme, de ne pas avoir assez d'invités, etc. Et en fait là je me suis dit justement cet été tu vois j'ai pris une pause. Alors j'ai deux interviews de programmées mais je ne fais rien de plus et je fais pas d'appel à témoignage.
Ouais.
Ouais.
Parce que du coup, quand tu vas reprendre, ou même avant, oui. L'appel à témoignage, c'était la seule façon. C'est la seule façon d'avoir quelqu'un, en fait, de présent.
Alors, au début, c'était la seule façon parce que je débutais, je savais pas comment faire. Et du coup, je me suis tournée vers mes amis, par exemple, ou les amis de mes amis. Et maintenant que j'arrive à la fin de la saison 1, là, je commence à avoir des personnes qui me recommandent ou des personnes qui me demandent est-ce que je pourrais venir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait faire une collab, quelque chose comme ça. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'était aussi le temps qui me permet de donner une autre vie à mon projet et pas l'empressement dans lequel on est, même si c'est dur parfois de pas céder à la pression de tout ça.
Ouais, bah oui, parce que du coup, c'est vrai que les débuts, on a peur en fait de pas respecter le planning, je sais, parce que c'est un peu le cas qu'on a eu au début avec Sarah qui était là pour accompagner l'émission.
Oui.
On a dû lancer des appels à témoins, mais c'est vrai que les premiers épisodes, on a eu des amis qui étaient déjà prêts en fait à participer à l'émission.
Ouais.
Mais au fur et à mesure, il y a des épisodes où on sait qu'on a besoin de personnes précises.
Oui.
Et là, on est obligé de lancer un appel à témoins, et c'est vrai que après, ça, c'est de mon point de vue sur l'émission que je porte. J'ai souvent des gens qui me font des retours en me disant qu'ils ont envie de participer, mais qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui ont peur, en fait, du moment où ça va se passer.
Ok.
Donc après, je ne sais pas si toi aussi, c'est un peu la même chose.
Alors, j'ai pas forcément eu ça. Je pense que j'ai dû en avoir au début. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai supplié certaines personnes pour qu'elles viennent. Voilà, elles ont dû se lasser certainement. Et puis peut-être, comme c'était mon projet était au tout début et ne sachant pas trop où j'allais, etc., peut-être que certains, ça les a pas forcément mis en confiance. Et voyant qu'au final, bah, il est périn et que... Ben, j'ai une saison 2 qui se prépare, je pense que certains ça les a peut-être un petit peu plus motivés, voire une crédibilité aussi. Ouais. Et je pense, en tout cas pour ceux que j'ai eus, ils étaient quand même assez à l'aise. Ouais. Ils étaient quand même assez à l'aise de parler, les premières minutes c'était un peu compliqué, et surtout que je le fais en français et en anglais.
Okay.
Donc, non, les gens sont, enfin en tout cas les invités sont quand même assez à l'aise, ouais quand même, ouais.
Est-ce que tu as déjà eu le cas, vu que toi c'est avec des films, est-ce que tu as déjà eu le cas de quelqu'un qui te propose le même film qui a déjà eu lieu ?
Bien sûr.
Ouais.
Là, j'ai un de mes prochains invités qui avait choisi le film Fight Club.
Okay.
Et sachant que Fight Club avait été déjà, c'était dans le troisième épisode, c'était en anglais, donc c'est vrai qu'on aurait pu le faire en français. Mais oui, et je pense que ça va arriver. Donc après, ce que je leur dis, c'est on en discute, on voit et on s'adapte, quoi.
Donc en fait, tu pourrais très bien faire une deuxième version de Fight Club en français,
ouais.
Si seulement ça, c'est pas la même chose qui ressort.
Oui, oui. Ouais. Mais comme je dis toujours, ça m'a. Peut-être que tu me rejoindras là-dessus, mais quel que soit le sujet de l'interview, même si c'est le même, vu qu'on est tous uniques, on a des histoires assez singulières. Dans tous les cas, il leur sortira pas la même chose, selon les invités en fait.
Ouais, ouais, exactement. Beaucoup de personnes qui bossent dans le milieu artistique expriment cette pression du travail constant. Est-ce que c'est le cas ? On avait déjà un peu parlé de ça, du coup.
Du travail constant. Alors, je sais pas si. Je pense qu'on peut l'étendre peut-être au milieu, je dirais, alors artistique et entrepreneurial.
Ouais.
En tout cas, de ce que je vois autour de moi par rapport aux personnes qui me précèdent, j'ai quelques amis dans mon entourage qui sont entrepreneurs, du coup qui participent à leur entreprise sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que par exemple je les entends souvent eux me dire t'auras pas de week-end, enfin faut que tu vas travailler tout le temps, ça va être compliqué, etc. Enfin faut l'avoir en tête. Je pense que c'est un peu au cas par cas, ça dépend dans quel domaine artistique, ça dépend ce que tu fais. Je pense que c'est un petit peu de tout, ouais, je pense.
Parce que du coup, moi je rebondis un peu sur la question et ce qu'on avait déjà évoqué au début. Alors, je sais plus lequel épisode, je sais que j'avais un épisode qui était sorti, je crois que c'était celui sur les règles, si je me trompe pas.
Mm-hmm.
J'étais en vacances.
Ouais.
L'épisode avait été tourné à mon retour de vacances ou alors avant, je ne sais plus. En tout cas, il y avait un épisode qui sortait quand j'étais en vacances. Et j'ai dû travailler en fait pendant mes vacances.
Mmh.
C'est vrai que j'étais vraiment pas sur le département et en fait l'épisode n'était même pas monté.
Oui.
L'épisode était toujours, on va dire, de façon brute, vraiment comme ça l'enregistrement. Et de là, il a fallu que je prenne en fait une journée sur mes vacances, dire là pendant 2 heures en fait, je dois être à la maison, je dois être sur mon ordinateur, je dois travailler. Et en fait, c'est ça que je veux un peu évoquer dans ma question. Le travail constant qu'on a, principalement quand on a son projet soi-même qu'on monte, il n'est pas pareil qu'un travail, on va dire, d'un 35 heures. Tout dépend après la formation, je pense.
Oui, je pense que c'est... surtout si t'es, comme on en revient tout à l'heure, surtout si t'es passionné, si t'es alimenté par ça, je pense que t'y mets pas le même... t'y mets pas la même énergie, la même... vibration, et puis ça dépend aussi vers quoi tu veux aller. En fait, je pense qu'il y a ça, c'est que quand j'ai commencé, moi j'ai vraiment commencé, j'ai mis un an avant de vraiment m'y mettre. C'était une idée qui avait germé dans ma tête, mais je pense que, je sais pas, par manque de légitimité ou en me disant je sais pas par où commencer. Et puis l'idée est venue petit à petit, mon entourage m'a bien aidée aussi. Et donc je dirais que ça dépend de ce que tu fais et de l'intention que tu veux y mettre, c'est surtout ça.
Est-ce que du coup tu as un peu été, parce que je prends mon exemple encore une fois, j'ai eu ce moment où j'ai dû travailler pendant mes vacances et qu'après il a fallu organiser aussi le tournage à la rentrée de mes vacances, donc vraiment le lendemain.
Ouais.
J'ai eu un peu, quand j'en ai parlé avec mon copain, j'ai eu un peu ce moment où je me suis dit, en fait ça commence à plus vraiment me plaire, parce que du coup je vis plus par passion, mais ma passion me fait vivre, en fait. Je deviens un peu mon podcast.
Oui.
Et du coup, je sais que là, avec mes recherches d'alternance,
oui.
on me pose souvent la question de « Ouais, mais vous avez fait quoi en dehors de ça ?» Ou « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Bah ouais, j'ai fait mon podcast. Oui, mais en dehors. Et en fait, okay. tu te rends compte que des fois, tu vis un peu par rapport à ça, pour ça.
Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais complètement là-dedans. Je faisais que ça et je pense que j'étais fascinée par le son, par la prise de son, tout. Tu découvres, en fait. Et quand je suis retournée en France, je me suis attelée à me dire qu'il fallait que je trouve un équilibre. Et justement, j'écoutais beaucoup de podcasts d'artistes qui disaient que pour alimenter leur processus créatif, il ne fallait pas faire que ça. Et j'en retiens, ça m'avait toujours marqué. Il y en avait une, donc c'est une créatrice de podcasts américaine. Elle disait que par exemple, pour les écrivains, les réalisateurs, etc., ils écrivent. Enfin, la méthode, c'était pas forcément d'écrire toute la journée, même si chacun a sa méthode, mais c'était pas forcément d'écrire toute sa journée. De se fixer par exemple 2 heures, de se dire ok, je me consacre à mon projet et après je fais autre chose qui me donne de l'énergie. Et du coup, je trouve, en tout cas moi, ça me correspondait dans ma méthode. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et pour trouver un bon équilibre, et bah par exemple, je me suis mise à la danse cette année. Et je me suis dit, bah tu vois, typiquement, c'est ok, je me consacre à mon podcast toute la journée, mais ce soir je sais que bah je vais aller apprendre de la danse et ça va me faire du bien en fait.
Ouais.
Et donc, en tout cas, je comprends, je partage complètement ce que tu dis, mais du coup, c'est justement ça dont c'est un peu difficile aujourd'hui, de ne pas se laisser happer par ton projet, en fait, que ton projet ne prenne pas le dessus sur toi, quoi.
J'ai souvent cette impression que les gens pensent que c'est assez simple de gérer un podcast. Enfin, encore une fois, on l'avait déjà un peu évoqué au début. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais dire sur ce genre de point de vue ?
Je peux comprendre, avec l'ère de l'immédiateté des réseaux sociaux, on ne voit que le résultat, mais qu'il y a plein de gens qui travaillent derrière, qu'il y a beaucoup de travail, que ça ne s'improvise pas, que oui, il y a une belle mise en scène, il y a des belles photos, il y a plein de choses, mais que c'est vraiment un travail en fait. Par exemple, ça m'avait beaucoup interrogé là-dessus, c'est qu'il y a des projets avec, par exemple, TikTok, etc., où tu peux faire des chiffres avec des vues, mais incroyables, et puis ça retombe d'un coup.
Ouais.
Alors que ça dépend quel est ton objectif, en fait.
Ouais. Du coup, tu gères aussi l'algorithme, tu postes aussi à des heures précises, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas forcément...
Alors, un petit peu quand même, mais déjà, je programme mes posts, par exemple. Okay. Ça, c'est une charge mentale en moins, on ne va pas se le cacher, parce que je pense qu'il y a un moment donné, j'ai été trop focalisée sur la promotion et pas assez sur mon contenu. Et j'avais pas, j'en discutais avec un ami qui me disait, mais attention, à la base, tu veux créer des podcasts et non l'inverse.
Ouais.
Donc ça, je pense que c'est bon à savoir. Mais bon, quand on est seul, et ben, il faut bien s'occuper un petit peu de tout. Et puis, donc oui, quand même, je regarde un peu, mais je ne suis pas dans une obsession de ça, parce que je pense que si j'étais dans l'obsession des chiffres, je me serais déjà arrêtée, en fait. Voilà, vu que je viens de commencer, je ne suis pas Léna Situation, et ouais, ce serait un peu compliqué quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué quand on parle de chiffres, parce que, après, c'est mon point de vue, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui permet de faire vivre un peu l'émission.
Oui.
Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui découvrent l'émission avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai souvent l'impression que c'est le cas avec TikTok principalement.
Mm-hmm.
C'est plus facile, en fait, de ramener des gens qui découvrent ton contenu grâce à ce qu'ils ont pu voir déjà en extrait.
Ouais.
Contrairement à Instagram où la majeure partie des gens qui vont regarder ton contenu sont déjà abonnés à ce que tu fais.
Ouais, c'est vrai.
On peut avoir de nouvelles personnes qui vont découvrir le contenu, mais c'est plus difficile d'avoir des gens... de nouvelles personnes qui vont regarder ton contenu et qui vont s'abonner et qui vont suivre ce que tu fais. Je sais pas si tu vois un peu.
Oui, complètement. Bah, je pense que c'est le phénomène même de TikTok. C'est qu'en ce moment, tu peux avoir des vues incroyables que tu n'auras pas sur Instagram, qui peut-être, il y a 10 ans sur Instagram, tu pouvais, tu mettais tel hashtag, tu avais des gens qui étaient à l'autre bout du monde et qui pouvaient liker tes photos ou avoir beaucoup de followers. On est sur des algorithmes et des process différents, donc je pense que c'est ça qui joue. Après, tu vois, j'ai rencontré un podcasteur il y a quelques semaines qui a quand même 10 000 vues par jour dans son podcast, donc c'est pas rien. Et son compte TikTok a été fermé du jour au lendemain.
Ah oui,
donc c'est la morale de l'histoire, c'est que je me suis dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que s'il s'était contenté que de son compte TikTok et pas de son compte Instagram ou autre chose, ça aurait été compliqué. Donc oui, je pense qu'il faut être un peu, c'est difficile, mais il faut savoir être nuancé dans ce genre de configuration. Ouais.
Pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer dans le podcast?
Allez-y, testez. tester et tester et faites-vous confiance.
Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on clôture cette dernière émission de la saison 1?
Bah écoute, merci de m'avoir reçue, je suis très contente et j'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes.
Pareil, hein, du coup, hâte de voir ce que la saison 2 va te donner pour toi aussi. Et ben merci d'avoir écouté On Papote, j'espère que l'émission vous a plu. Je remercie également Bérénice qui a accepté mon invitation et je vous invite fortement à aller écouter son podcast Le Canap' de B, disponible partout pour tous les curieux et ceux passionnés de cinéma. Je vous conseille également l'épisode sur La La Land que j'ai écouté et que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment la façon dont ton invité a parlé. Mm-hmm. Et ça, je sais que c'était un film que j'avais envie de voir et je pense que je vais aller le voir maintenant.
Okay, super.
Comme dit au début, c'est avec ce 15e épisode que la saison 1 se clôture. Je tiens à remercier toutes les personnes que nous avons reçues au cours de cette première saison, mais également toutes les personnes de l'ombre qui m'ont accompagnée pour cette saison qu'on oublie souvent, comme Sarah qui était là au début, Manon et Mathis qui ont aidé durant les tournages avec leurs idées, la radio C-Lab qui diffuse l'émission et qui fait découvrir l'émission en Bretagne, également à mon copain qui m'a toujours soutenue dans le projet et sans qui j'aurais sûrement lâché l'émission à plusieurs reprises. Mais un immense merci à vous qui suivez l'aventure On Papote depuis le début. C'est grâce à vous que ce projet prend vie et aujourd'hui qu'il me rend heureuse. Je vous souhaite à tous de très belles vacances et on se revoit à la rentrée pour une saison 2.